Bonsoir à tous, il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. En RDC, l'armée annonce avoir tué au moins 10 membres des ADF, les forces démocratiques alliées, le groupe armé d'origine ougandaise, dans une offensive à Beni, dans l'est du pays. Une délégation d'officiers ougandais est aussi arrivée sur place. Depuis jeudi, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous le régime de l'état de siège par le président Félix Tshisekedi. Des officiers de l'armée et de la police nommés pour remplacer les autorités civiles sont déjà sur place. En Guinée, au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Sigiri. Dernier événement en date des drames donc de l'orpaillage clandestin dans le nord-est de ce pays. Deux civils ont été tués et 5 blessés hier dans le nord du Mali. Leur camion a sauté sur une mine artisanale. C'est le deuxième événement meurtrier de ce type en 2 jours. Vendredi, 3 soldats maliens ont trouvé la mort dans l'explosion d'un tel engin au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Ombouri, dans le centre du Mali. La police tchadienne a dispersé hier à coups de gaz lacrymogène quelques manifestations sporadiques de dizaines de personnes. Un manifestant a été blessé. Il répondait à l'appel de l'opposition et de la société civile à N'Djamena contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Les avocats de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, demandent l'arrêt des poursuites contre leurs clients qu'ils affirment inaptes à être jugés. Dans une requête consultée ce dimanche par l'agence France Presse, arrêté le 16 mai 2020 dans la banlieue de Paris en France, après 25 ans de cabale, Félicien Kabuga est notamment accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit plus de 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Un nouveau confinement d'une semaine en global, la fête musulmane célébrant la fin du Ramadan, commence aujourd'hui en Tunisie. Les hôpitaux du pays ont du mal à gérer l'augmentation des cas de coronavirus et les autorités tunisiennes avertissent que le système de santé menace de s'écrouler. Le Parlement du Soudan du Sud a été dissous hier soir par le président Salva Kiir. Cela ouvre la voie à l'installation d'un nouveau Parlement plus large dont la composition avait été négociée dans un accord de paix en 2018. Selon cet accord donc, la nouvelle Assemblée nationale passera de 400 à 550 législateurs, dont 332 seront nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar et 90 par les autres partis signataires. Plus de 1000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa, selon les médias italiens. Une ONG de secours en mer a averti que des centaines d'autres personnes étaient en difficulté dans les eaux larges de Malte. Après près de 400 personnes de différentes nationalités, dont 24 femmes et 6 enfants, se trouvaient à bord d'un bateau qui a été intercepté au large de Lampedusa, ont indiqué les agences de presse italiennes. Un autre navire de 20 mètres de long transportant 325 personnes a été intercepté, lui, à quelques 13 km des côtes de Lampedusa, tandis que des centaines d'autres migrants sont arrivés à bord d'embarcations plus petites. Le pape François appelle à la fin des violences à Jérusalem. Hier, de nouveaux heurts ont fait une centaine de blessés dans la ville sainte. La violence engendre seulement la violence. Arrêtons ces heurts, a lancé le pape argentin dans un message dominical après la prière, soulignant qu'il suivait avec une préoccupation particulière les événements qui se déroulent à Jérusalem. Vendredi soir, plus de 220 personnes, majoritairement des Palestiniens, ont été blessées lors de heurts sur l'esplanade des mosquées entre policiers israéliens et fidèles palestiniens réunis pour l'iftar, repas de rupture du jeûne du Ramadan. Le variant du coronavirus découvert en Yémen est plus contagieux et menace des caractéristiques qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, contribuant à l'accélération de l'épidémie en Inde, a averti samedi la scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan. Pour la première fois samedi, l'Inde a enregistré ce samedi 4000 personnes dues au COVID-19 en 24 heures et plus de 400 000 nouvelles contaminations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous découvrons ensemble le Kimbanguis. Lionel de Nanira Kahima sur la mise en onde. Eric Manirakiza à la présentation. Église chrétienne d'Afrique née au Congo, le culte Kimbanguis a célébré le 6 avril dernier ses 100 ans en sa ville sainte d'Onkamba, signe distinctif de l'église fondée par Papa Simon Kimbangu. Les pagnes blancs et verts ont déferlé sur la ville sainte et la nouvelle Jérusalem d'Onkamba dans la province du Congo central. C'est environ 200 km à l'ouest de Kinshasa. Jadis, l'épicentre du prestigieux royaume Congo avant l'arrivée des Européens au 15e et 16e siècle. Pour comprendre les pratiques de l'église Kimbanguis, la différence et les similarités entre le Kimbanguis, les églises de réveil et les catholiques, nous aurons deux invités. Joseph Diangienda Ndekani, un fidèle de Kimbanguis. Nous aurons également le père Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership. Encore une fois, bienvenue. Je commence avec vous, professeur Jean-Pierre Bonguila. Je signale que vous êtes à Minneapolis, dans le Minnesota. Merci d'être avec nous. Professeur, le kimbanguisme obéit à quelle doctrine?
S'agissant de leur doctrine, ils se disent que l'Église, que Simon Kimbangu, le fondateur, aura reçu certaines révélations de Jésus, qui lui a demandé de créer une Église qui serait typiquement noire, une Église africaine. Et donc, cela s'est d'après lui concrétisé par le fait que d'abord il était catéchiste chez les missionnaires, et puis, cette révélation-là est revenue auprès de lui à trois reprises. Finalement, comme preuve, il y a eu un miracle en son nom. Il y avait une dame qui était malade, mourante, et il aurait guéri cette dame-là. Après cela, d'après leur croyance, il s'est avéré qu'il y avait certains autres miracles. Donc, ce qui a fait de lui comme un prophète. Malheureusement, comme beaucoup de gens venaient vers lui, ça criait comme une insurrection, et c'était le temps de la colonisation. Donc, il a été arrêté, incarcéré, et il était en fait condamné à mort. Mais on a commué sa sentence, il s'est retrouvé dans la ville de Lubumbashi, et c'est là qu'il est mort 30 ans plus tard. Mais ses adeptes, notamment sa femme et ses enfants, ont repris la chose en main et ont fait de lui un prophète. Et éventuellement, l'Église a commencé autour de ses enfants. Et la cité ou la ville où il est né, la ville d'Nkamba, est devenue ce qu'ils ont appelé la Nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Donc, la révérence se fait au prophète Simon Kimbangu, mais aussi à ses enfants et à ses petits-fils, qui, pour l'instant, certains sont en train d'occuper des positions clés dans l'Église. Donc c'est en fait ça leur foi. Et la foi, c'est que l'un de ses fils, par exemple, s'est appelé l'incarnation du Saint-Esprit. Donc d'une manière ou d'une autre, il est vénéré un peu comme un demi-dieu. C'est à cela, sur le plan doctrinal, c'est à cela qu'ils croient. Et sur le plan moral, ils ont certaines normes aussi morales auxquelles ils font allégeance, notamment l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction, je crois, de fumer, l'interdiction de danser, l'interdiction de faire la polygamie et tout cela. Donc, ils ont beaucoup d'interdictions dans ce sens-là. En résumé, ce à quoi ils croient, ils ont beaucoup d'autres aspects, mais comme j'ai dit, je vois tout cela sur le plan de leadership, non, sur le plan théologique.
Est-ce que c'est une église qui a des pratiques particulières par rapport à d'autres églises du réveil qui se sont révélées dans les Grands Lacs ou même par rapport à l'église catholique?
Oui, absolument. Et je verrai ceci, comme je dis, sur le plan leadership. Donc, je verrai des différences et similarités sur le plan structurel, le plan des ressources humaines, le plan politique et le plan symbolique. Sur le plan structurel, parlons d'abord des différences. C'est que l'église kimbanguiste a été fondée par Simon Kimbangu, qui est le leader de cette église-là, malgré que lui-même n'a prêché que pendant 6 mois avant qu'il soit incarcéré pour le reste de sa vie. Et c'est une église africaine indépendante parce qu'elle est née des sources africaines et a promulgué la foi africaine. Et pour eux, ils ont vu que Jésus s'est manifesté complètement en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Sur le plan de leur terre sainte, ils ont Nkamba, Terre Sainte. Ça, c'est la différence sur le plan structurel. Et maintenant, parlant des autres églises de veille, ils n'ont pas d'autres fondateurs que... Elles n'ont pas, je parle des églises, elles n'ont pas d'autres fondateurs que Jésus. Et sous Jésus, évidemment, ils voient les envoyés, non seulement des envoyés de Jésus, mais des serviteurs de Jésus, qui seraient des pasteurs, des bergers, des apôtres. Et ils ont plusieurs noms. Et c'est des églises de source, en général, de source internationale, qui ont des ramifications sur le pays ou sur le continent. Mais les sources sont internationales. Et c'est sûr que c'est des églises qui n'ont pas d'autre terre sainte. Donc ça, c'est sur le plan structurel avec d'autres églises et le veille. La différence avec l'église catholique, c'est que l'église catholique, c'est d'abord une église institutionnalisée, alors que le kimbanguisme, c'est une église africaine indépendante. Il y a une grande différence là-bas. Donc l'église catholique est très universelle et embrasse tous les continents et tous les peuples du monde. Et l'église universelle catholique croit en Jésus comme Dieu et comme homme. Donc, il n'y a pas d'incarnation de quelqu'un ou le pape ou qui que ce soit qui serait comme l'incarnation directe de l'Esprit Saint, ça n'existe pas. Donc, le syncrétisme qui existe dans l'église kimbaniste n'existe pas dans l'église catholique, c'est sûr. Dans l'église catholique, nous parlons plus de l'inculturation, ce qui fait qu'il y a des aspects d'une certaine culture qui peuvent avoir leur place dans l'église catholique. Mais c'est, tout cela, c'est bien structuré, c'est pour ça que c'est l'inculturation. Alors que dans l'église kimbaniste, on parle plutôt de syncrétisme. Il y a certains aspects choisis qui entrent dans leur église de cette manière-là. Et en général, les sources de ce syncrétisme sont en général, on dirait, païennes. Donc ça, c'est sur le plan structurel. Sur le plan des ressources humaines, l'église kimbaniste compte sur les descendants de Simon Kimbangu pour continuer à perdurer. Et en clair, on parlerait même d'un certain népotisme, parce qu'on va de père en fils et des neveux. Donc c'est la souche qui est en train de diriger l'église. Par contre, dans les églises de réveil, vous pouvez avoir la même chose, un peu de népotisme, mais en général, quand c'est des églises qui sont de source internationale, elles ont des autorités sur le plan international, elles ont des affiliations sur le plan international, la hiérarchie peut être dans un autre pays. Mais aussi, quand c'est des églises nationales, il y a une certaine diversité, je dirais, dans le choix du leadership. Sur le plan politique, il y a une grande différence aussi, parce que l'église kimbaniste est née sous la colonisation. Elle se battait contre la colonisation à ses débuts. Mais, petit à petit, cette église-là a commencé à faire allégeance à la politique. À la politique normale, à la politique du moment. Par exemple, l'église kimbanguiste a beaucoup soutenu Mobutu, Kabila le papa, et éventuellement Tshisekedi, parce que, à ce que je sache, il doit être parti à leur centenaire à Kamba.
Il était là.
Donc, il était là. Okay. Donc, sur le plan politique maintenant, s'agissant des églises de veille, il y a beaucoup de divisions entre elles. Il y en a qui font allégeance à la politique du moment, il y en a qui sont très opposés. C'est sûr que ces églises n'étaient pas là au temps de la colonisation, donc ne pouvaient pas se manifester contre ou pour la colonisation. Et ces églises, sur le plan politique, ne prêchent pas seulement la race noire, que Jésus est venu uniquement pour la race noire ou que nous devons avoir un Jésus noir, je ne pense pas. Les églises de réveil sont en général tribalo-ethniques, pour la plupart quand c'est des églises d'origine nationale. Donc, c'est un peu ça sur le plan politique. Alors, sur le plan politique de l'église catholique, bon, c'est sûr, vous avez les évêques, comme je l'ai déjà dit, et l'église catholique ne fait pas allégeance à la politique du moment. Et pour preuve, pour l'instant, vous avez des tensions au Congo entre l'église catholique et la politique actuelle de Tshisekedi. L'église catholique fait en sorte que ce qui va à l'encontre de la charité soit dénoncé, que ce soit du côté de la politique, que ce soit du côté de la société elle-même. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan symbolique maintenant, l'église kimbanguiste, comme j'ai dit, ils ont prôné l'incarnation de Jésus en la personne de fils de Simon Kimbangu. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont pris l'anniversaire de ce fils de Kimbangu-là comme leur Noël, comme la naissance même de leur prophète ou de la réincarnation de l'Esprit Saint qui est le 25 mai. Donc, sur le plan symbolique aussi, c'est des gens qui aiment bien la musique, mais leur musique à eux, la musique avec fanfare, grande célébration chrétienne, syncrétisme, je ne dirais pas qu'ils sont ne soutiennent pas ça. Donc c'est ça qui fait la différence sur le plan symbolique avec les autres églises de réveil. Pour eux, pour ces églises de réveil, Jésus est Dieu. Noël, c'est le 25 décembre. Donc, ils ont, ces églises ont des séminaires bibliques pour proclamer la bonne nouvelle. Et ils font des jeûnes de prière, de délivrance et toutes ces choses-là. Donc, c'est relativement différent du symbolisme que l'église guimariste utilise. Enfin, donc, c'est cela que je voulais dire. Mais si vous voulez avoir la similarité entre l'église guimariste et les autres églises, j'en ai déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé de la prise en charge de l'église guimariste, des adeptes de l'église guimariste et des adeptes des églises de réveil. Ces adeptes-là ont une prise en charge sérieuse de leurs pasteurs et de leurs églises. C'est pratiquement eux-mêmes qui construisent leurs églises. Ils n'attendent pas de soutien extérieur de l'Europe, de partenaires extérieurs en général, c'est eux-mêmes qui font ça. Les deux églises, parlant de guimarisme et les églises de réveil, ont la pratique de l'exorcisme et de la transe dans leurs prières de délivrance, exorcisme et tout cela. Et je dirais même à quelques degrés que les deux églises font allégeance à la politique d'une manière ou d'une autre. Sur le plan du leadership, pour les deux églises, kimbanistes et les églises de réveil, ils ont des leaders qui sont plus charismatiques que transformationnels. Charismatiques dans le sens où ils ont certains caractères en eux, certains dons en eux, comme le courage, la persévérance et tout ça, et qui fait qu'ils ont des adeptes. Ce sont des caractéristiques qui ne sont pas enseignables, qu'on ne peut pas transmettre d'une personne à une autre, parce que ça dépend de la personne qui est chargée de l'Église. Donc, c'est le fait de pasteur, ceux qu'ils appellent apôtres, qui incarnent certaines caractéristiques propres à eux. C'est des caractéristiques qui ne sont pas transmissibles. Donc, c'est pour ça que je les appelle leaders charismatiques.
Est-ce que l'église kimbanguiste a ses influences en dehors du Congo?
Depuis certaines années, ils se sont répandus. Bon, évidemment, les Congolais ont immigré dans plusieurs pays, en France, je parie en Angleterre et surtout en Belgique, où il y a plusieurs Congolais. Vous avez la présence de l'église kimbanguiste là-bas. J'ai eu des photos ici où ils célébraient le 25 mai dernier comme leur Noël. Et nous parlons de 30 millions d'adeptes au Congo. Or, il y a à peu près 10 millions d'adeptes. Et les autres sont à l'extérieur du Congo. Ça signifie que c'est une église qui s'est relativement bien répandue à travers le monde. Simon Kimbangu lui-même n'avait pas été, comme on dirait, celui qui a gouverné ou a amené l'église au niveau qu'elle est pour l'instant, parce qu'il était incarcéré. Juste après avoir prêché pendant 6 mois, il était incarcéré. Et son fils, Joseph Diangenda, a pris la reine de l'église. Mais il faut aussi compter, nous ne devons pas oublier le rôle de sa femme, la femme de Simon Kimbangu, Marie Mouilou, grâce à qui actuellement l'église s'est bien répandue, parce qu'elle a pu ordonner certains prophètes, ou je ne sais pas comment ils les appellent, c'est elle qui a fait l'ordination des premiers adeptes qui seraient comme des... Le mot diacre n'existe peut-être pas là-bas, mais qui seraient comme des prophètes, comme des... pas tout à fait des successeurs, mais comme des ministres.
Le rôle de sa femme a été très déterminant.
Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Marie Mouilou a été comme clé, en fait, pendant que son mari était en prison. Elle s'est dit, non, il vaut mieux que l'Église avance. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à ordonner certains adeptes pour les hisser au rang de prophètes ou de ministres de la parole. Et c'est comme ça que l'Église a avancé. Mais la hiérarchie elle-même appartient à la famille.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est une histoire très intéressante.
Oui, absolument. C'est très intéressant, pour autant qu'ils ont milité dès le début pour une Église qui serait complètement noire. Et ils ont comme réécrit un peu la Bible en disant par exemple que Adam et Ève étaient noirs. Ils n'étaient pas, on dirait, blancs. Donc ils voulaient réécrire une Église noire. Ce qui est quand même quelque chose d'audacieux. C'est pour ça qu'ils ont certainement beaucoup d'adeptes qui pensent que l'Église doit nous appartenir. Qu'en est-il de nous si tout est blanc, partout où nous allons c'est blanc, qu'en est-il de nous? Mais bon, l'Église catholique est universelle et des ramifications sont partout. Les Noirs se trouvent là-dedans et les Jaunes et tout le monde. Donc on ne s'en plaint pas. Mais voilà, c'est une Église qui continue à faire du chemin et qui aura de l'avenir.
Merci beaucoup.
Thank you.
émission, c'est le dialogue des religions. Nous sommes en ligne avec Joseph Dianguenda. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Eric.
Vous êtes membre de l'église kibangouiste, n'est-ce pas?
Oui, je le suis.
Voudriez-vous nous dire comment vous le devenez? Comment ça commence?
Bon, l'église kibangouiste, c'est comme toute l'église. Il y a comment on devient membre par adhésion libre. Quand vous acceptez de communier, de partager la foi kibangouiste, hein. Mais nous autres, par exemple, moi personnellement, je suis devenu membre par mes parents. Parce que mes parents sont des kibangouistes. Je suis né déjà dans la famille kibangouiste. C'est la religion que mes parents m'ont amené. À l'âge de 12 ans, je me suis fait baptiser. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je suis resté fervent kibangouiste. J'ai accepté la foi kibangouiste moi-même aussi. Je trouve que c'est une bonne foi.
Et c'est quoi la foi kibangouiste, justement?
La foi kibangouiste, c'est croire à Dieu le Père et en Jésus-Christ et en Dieu le Saint-Esprit. Nous communions dans la Trinité, comme on dit à Kilingala Bolingo Bébé Komissala. C'est-à-dire que les kibangouistes, nous partageons, nous reconnaissons l'autorité de Dieu le Père et nous reconnaissons aussi l'autorité de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et Papa Simon Kimbango qui est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ qui occupe la troisième personnalité dans la Trinité.
C'est-à-dire?
Dieu le Saint-Esprit.
Donc, Simon Kibangu est pris comme un Dieu, c'est ça?
Il n'est pas pris comme un Dieu, mais c'est un Dieu. Parce qu'il faut être dans la foi pour comprendre cela. Il occupe la troisième personnalité dans la Trinité. Et Dieu est trinitaire, Dieu est en lui, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est, le Fils s'est manifesté en Jésus-Christ, comme nous tous nous connaissons l'histoire. Et le Saint-Esprit aussi s'est manifesté en Simon Kibangu, que nous connaissons, que certains aussi commencent à comprendre actuellement.
Et depuis que vous découvrez l'Église à travers vos parents, vous avez appris à aimer l'occulte?
Bien sûr que oui, parce que, comme j'ai dit, personnellement, je suis devenu kibangouiste à travers mes parents, mais j'ai décidé aussi d'y rester parce que quand j'ai eu l'âge des raisons, j'ai compris que c'est une bonne voie. J'ai adhéré. Moi, peut-être j'ai la chance par les parents. Il y a des gens qui viennent par révélation. Parfois, le Saint-Esprit se révèle à lui, il lui montre qu'il faut suivre la voie kibangouiste. Il y a des gens qui suivent les musiques, il y a des gens qui suivent les prédications. Parfois, la prédication du papa de son éminence, chef spirituel, à l'époque, papa d'Engenda, actuellement, papa Simon Kibangu Kiangani. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a une voie qui vous amène, mais une fois aussi, cette voie vous amène, vous entendez, vous recevez l'enseignement, et vous y croyez, et vous devenez fervent.
Est-ce que ce n'est pas une église qui est devenue un peu comme une institution dynastique ou monarchique? Parce que le chef spirituel, c'est toujours un descendant de son créateur.
Oh non, pas tout à fait, parce que je ne sais pas s'il y a... Vous allez me dire le contraire. L'œuvre de Dieu se passe toujours en famille. Parce que Dieu lui-même n'a pas envoyé un ange, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il pouvait envoyer une autre personne, peut-être un autre être spirituel, un ange ou ceci, je ne sais pas. Mais il a envoyé son fils. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan matérialisation, Abraham, que nous considérons le père de la religion même, parce que Abraham, ça passait à travers son fils, Isaac, Esaü et Jacob. Vous comprenez? Donc, je crois que ce qui est important, ce n'est pas le fils en père, mais ce qui est important, c'est rester dans la lignée des traces des responsabilités confiées par les fondateurs. Par exemple, que nous sommes Papa Simon Kibangu, c'est le fondateur de l'église kibangouiste. Avant son départ, il a choisi un de ses fils, donc son fils cadet, Papa Dengenda, pour rester comme chef spirituel. Et il nous a démontré qu'il était valable sur tous les plans, spirituellement et matériellement. Et à sa mort, son frère, Dialungana Kiangani, qui s'occupait déjà de Nkamba, qui était le chef spirituel adjoint, il a remplacé son frère. Et après sa mort aussi, son fils, Simon Kibangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, il a remplacé, il est valablement, parce qu'il continue à jouer cette plénitude-là, nous voyons en lui la continuité de Simon Kibangu. D'ailleurs, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, Simon Kibangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, est l'incarnation de Simon Kibangu de 1921. Lui-même avait prédit ça en 1951 qu'il va naître de nouveau.
Pour vous, qu'est-ce que vous trouvez dans l'église kibangouiste de plus important qu'ailleurs?
Toutes les églises, d'une manière générale, les églises concourent au salut de l'homme. les gens prient pour se mettre en bonne relation avec Dieu. Mais ce qui fait la particularité de l'église Kimbanguiste, c'est une église créée par Dieu et dirigée par Dieu lui-même. Et puis, il faut comprendre les contextes dans lesquels l'église Kimbanguiste est créée, où elle existe, et pourquoi l'église Kimbanguiste existe. D'abord, Dieu est Trinité. Dieu le Fils, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au départ, avant la création, tout était spirituel. Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qui existe, mais il n'avait pas encore créé l'homme. Au ciel, au paradis, Lucifer, que nous appelons aujourd'hui Satan, Lucifer, il n'était pas mauvais. Il n'était pas du côté négatif, il était un serviteur, un commandant, le chef d'état-major de l'armée céleste. Il avait désobéi Dieu, le Saint-Esprit, parce que Dieu, le Père, lui avait ordonné. Une fois, il est revenu donner son rapport, on lui a dit non, maintenant, là, il faut aller vers le Fils. Et lui qui croyait, il venait directement appeler Dieu. Mais il y a un fils, il était étonné, il s'est mis en troisième position, il a accepté. Et la prochaine fois, on lui dit, il faut aller vers le Saint-Esprit. Là, il s'est positionné en quatrième position, il a dit non, pas question. Comme il avait la majorité des anges, était derrière lui, il s'est trouvé dans la majorité et il s'est rebellé. C'est comme ça que Dieu aussi a la précipité sur le terre. Ça, c'est... Donc, il avait désobéi à l'ordre établi au ciel. Il ne voulait pas devenir quatrième personnalité. Maintenant, Dieu a créé l'homme pour que nous soyons les maîtres de l'humanité. L'homme était puissant, le premier homme que Dieu a créé, Adam. Il chassait Lucifer. Mais Lucifer, comme il était érigé, il a utilisé le serpent pour faire tomber l'homme. Quand il a fait tomber l'homme, le péché a commencé. Maintenant, depuis que le péché a commencé, c'est pourquoi je suis dans ça, Dieu maintenant voulait récupérer les hommes. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils. D'abord, il est parlé à travers les prophètes, hein, nous connaissons les déliges, les Abraham, tout ce que Moïse et tout, tout. Mais après, ils ont décidé au ciel d'envoyer son fils, Jésus-Christ, pour venir mourir, pour nous reconnecter avec Dieu, parce que les ponts étaient cassés. Et Jésus-Christ lui-même maintenant a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il viendra achever sa mission. Et ce Saint-Esprit, c'est Simon Kimbang. Donc Simon Kimbang est venu, il a créé l'Église. L'église Kimbanguiste. Donc l'église Kimbanguiste, c'est l'église qui est venue mettre de l'ordre dans le monde, qui est venue achever la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi depuis sa création, elle est dirigée par Dieu lui-même, incarné dans un corps humain. Donc tout le monde, normalement, est Kimbanguiste. On peut être catholique, des réveils, comme ça, la finalité, c'est Kimbanguiste. C'est la seule église au monde où nous savons là où nous allons après la mort. C'est la seule église au monde où nous ne chantons pas les chansons humaines. Nos chansons sont des chansons captées par les gens qui ont les dons, par les anges. Donc nous avons, il y a beaucoup d'aspects spirituels qui justifient réellement que l'église Kimbanguiste est la meilleure à la longue. On verra, toutes les églises vont déverser vers l'église Kimbanguiste, parce que c'est l'église de Dieu sur la terre.
Merci Joseph Ndiangenda pour avoir exprimé votre conviction, votre adhésion à l'église Kimbanguiste. Merci beaucoup.
C'est quand même l'année du centenaire. On ne pouvait pas clôturer sans parler du centenaire parce que depuis que Simon Kimbang a commencé son ministère en 1921, le 6 avril, ça fait exactement 100 ans. Et ce qui justifie même l'œuvre, et les lèvres salvatrices, l'œuvre réellement de Dieu, parce que Simon Kimbang, on a prêché que pendant 5 mois et demi, le 6 avril 1921, au 12 septembre 1921, il a été arrêté, incarcéré, mis en prison pendant 30 ans. Son enseignement de 5 mois et demi, pendant 100 ans, elle est devenue une grande église de plus de 20 millions de membres. Elle est partout dans tous les continents aujourd'hui. Et c'est ça un peu dont nous avons fêté le centenaire. Et à cette occasion, nous avons construit un grand musée en Kamba, qui est peut-être le premier musée. Aucune église a cette grande musée où nous allons récupérer tous les objets de Simon Kimbang vont être mis là-bas, notamment les tonneaux dans lesquels il a été mis et soudé, hein, jeté dans le fleuve pour la tentative de se tuer. Et la chaîne, il y a beaucoup d'objets. Donc je voulais que les gens pensent que nous sommes dans l'année de centenaire de l'église Kimbang.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lionel Mounadelagaïma qui a assuré la mise en onde. Eric Mandakiza était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.